Oui, bonjour Jean-Jacques de Nîmes. C'était juste pour vous dire que par les heures consacrées à Benoît XVI et à Sœur Emmanuelle, France 2 nous démontre qu'elle est la seule chaîne qui nous fait régresser de l'écran plasma au tube catholique. Au revoir.
Oui, bonjour alors, enfin bonsoir plutôt. Voilà, donc Sœur Emmanuelle est morte et Sœur Emmanuelle a écrit ses mémoires qui, nous prévient-elle, vont nous choquer. Et comme le dit une journaliste de France Inter, oui, effectivement. Et qu'apprend-on? Bah, que Sœur Emmanuelle s'est adonnée au plaisir solitaire. Je sais pas si on doit en rire, le fait que ce soit soi-disant choquant, qu'une femme, enfin qu'une personne, homme ou femme d'ailleurs, se soit adonnée au plaisir solitaire dans sa vie. Voilà, on est quand même en 2008, quoi, alors je sais pas... J'ai l'impression parfois d'être revenu au 19e siècle puritain. La charité, le sexe choquant, le catholicisme triomphant, enfin je sais pas s'il est triomphant, mais en tout cas une religiosité triomphante. Voilà, plus une bonne dose de libéralisme par-dessus, bah voilà, c'est le 19e siècle. Ils ont plus enfin on n'a plus les mêmes tenues, on a l'électricité, mais voilà, le 21e siècle, c'est le 19e plus Internet. Voilà, je suis un peu choqué, et surtout je suis extrêmement choqué que des journalistes de France Inter soient outrés par le fait que, mon Dieu, une sainte se soit mis les doigts, quoi, pour le dire crûment. Allez, bonne continuation, au revoir.
Il faut que je vous raconte ça. Vous savez ce qu'il y avait dans le sud-ouest de ce mardi 21 octobre, celui dont la une était consacrée à la mort de Sœur Emmanuelle? Eh bien, il y avait un scoop absolument incroyable, c'est que Benoît XVI a été interpellé pour des faits de proxénétisme. Si, c'est pas des barres. Hein. Il est soupçonné d'avoir mis sa petite amie sur le trottoir. Et la jeune fille, âgée de 19 ans, a raconté que son ami, Benoît XVI, n'était pas un souteneur, qu'il était simplement son chauffeur, et qu'elle lui offrait l'occasion, pour le remercier de ses services, de l'essence, des cigarettes et du cannabis. Voilà un mec qui fait amour à tout le monde et il fume du cannabis. Et alors du coup, il est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gradignan. Benoît XVI. 16, c'est son nom de famille. C'est Monsieur 16, quoi. C'est écrit comme 16, le nombre. S-I-Z-E. Et son prénom, c'est Benoît. C'est rigolo, quand même, hein. Benoît 16, interpellé pour des faits de proxénétisme. Je me demande où est-ce qu'on va-t-on?
Bonjour, Daniel. C'est Martine, du Pas-de-Calais. Un petit coup de zapping sur ma télé, il y a quelques minutes, une jeune femme parle de l'aide que lui a apportée Sœur Emmanuelle. Mais bien vite, un journaliste excité l'interrompt. Voilà, Monsieur Kouchner qui arrive. Il faut qu'il parle. Il faut l'écouter et dire que Sœur Emmanuelle était formidable. Et puis, nouveau sujet d'excitation. Voilà le ministre Santini qui arrive. Écœuré, j'ai éteint ma télé. Ils n'ont pas honte, tous ces nantis, pas toujours très catholiques d'ailleurs, de se servir ainsi de la mort de Sœur Emmanuelle. Ils me dégoûtent tous. Au revoir, Daniel.
Faut-il sauver la finance pour que les plus riches continuent à se goinfrer, ou est-il temps enfin de changer complètement notre mode de vie, notre façon de penser la société dans laquelle nous vivons? Venez poser les questions ou donner les réponses à l'Oasis Café de Brignoles, le repère de la bassie J'y suis du Centre Var, jeudi 23 octobre à 20h. Le débat sera précédé de la projection d'un film documentaire intitulé « Notre pain quotidien » et agrémenté, comme chaque mois, d'un casse-croûte de fabrication locale. Salut à tous les AMG et à jeudi.
Merci, chers AMG, pour ces messages que j'écoute depuis Cleveland, en Ohio. Nous continuons nos reportages avec Give. Alors, on parle beaucoup, évidemment, ici, comme partout dans le monde, ou à peu près, de la crise financière. Et on entend beaucoup parler de « oui, mais c'est une crise d'un système virtuel, immatériel, insaisissable en somme ». Hier, on a rencontré une association qui s'appelle ESOP, E-S-O-P, et qui vient en aide aux familles qui sont saisies, qui subissent des saisies pour leur maison, ou qui sont expropriées. Et pour cette association, qui est une des associations, il y en a beaucoup qui font de l'entraide et qui essayent de soutenir les milliers de familles, les milliers de familles qui sont expropriées ou dont les biens sont saisis, ou dont les maisons, ou les petites maisons sont saisies, eh bien, c'est pas si matériel que ça, c'est pas si virtuel que ça, ça a un visage, c'est ou au moins un symbole, c'est le symbole du requin. Il y a des requins. Et dans les bureaux de cette association, ben, il y a des requins partout. Il y a des requins en peluche, il y a des requins représentés d'un tas de façons. C'est peut-être pas très gentil pour ces animaux de les comparer à ces féroces prédateurs que sont ces courtiers, ces usuriers et ces banques. Mais en tous les cas, il y a une volonté de représenter le problème, la difficulté. Et d'ailleurs, il existe des crimes financiers. La notion de crime financier existe bel et bien, et d'ailleurs, ici à Cleveland, il y a une série de personnes, de personnages qui ont été mis en examen et qui vont être jugés. Alors, c'est un début, mais on voit bien que c'est pas aussi virtuel, aussi immatériel que ça. C'est pas seulement un système comme un ouragan qui serait abattu sur notre belle planète. Alors évidemment, ici c'est les élections. L'Ohio est un État très important, c'est un swing state qui la dernière fois avait fait gagner en 2004, avait fait gagner George W. Bush, et cette fois-ci qui a l'air, à en croire les sondages, d'aller plutôt vers un soutien à Obama. En tout cas, ici, on y croit, surtout dans les quartiers populaires. On croit beaucoup, beaucoup à Obama. On en attend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on suit ça de très près. S'il y a un endroit où les Français sont très aimés et très bien accueillis, c'est dans les permanences, les bureaux du candidat McCain. Parce que là, on aime vraiment les Français, parce que le président Sarkozy, c'est l'ami de George W. Bush. Et voilà, les Français sont des républicains, les Français sont pro-Bush, et les Français donc ne peuvent que soutenir la candidature de McCain. Beaucoup d'autres choses, et bien évidemment d'heure en heure sur ces élections, sur fond donc de cette crise immobilière et de ces familles entières qui sont expulsées. On a assisté hier à des expulsions, c'est particulièrement pathétique. Pendant ce temps, là-bas, si j'y suis, vous propose des rediffusions, de nouvelles diffusions. Là, c'est toujours dans le souci d'apporter notre contribution à ceux qui sont en train de refonder un nouveau capitalisme, une nouvelle économie, assainir, réguler, etc. Tout ça. Bien, aujourd'hui, un grand classique de la basse, si j'y suis, c'est un entretien avec Cornelius Castoriadis. On le repasse régulièrement, il date de 1996, j'avais à l'époque rencontré Cornelius Castoriadis. L'entretien a duré assez peu de temps chez lui, mais en très peu de temps, Castoriadis, vous allez voir, vous allez entendre, a dit, pour nous en tout cas, l'essentiel. C'était il y a 12 ans. Donc voilà, aujourd'hui, alors c'était à l'occasion de la publication de la montée de l'insignifiance, un ensemble de textes de Cornelius Castoriadis, et il nous avait fait la gentillesse de cet entretien qui, encore une fois, je le répète, nous semble toujours aujourd'hui aussi clair, et évidemment, avec le temps, ne fait que prendre encore plus de signification. Auparavant, encore quelques messages. On a le temps aujourd'hui, alors on a pris pas mal de messages. Encore quelques messages, donc, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. L'article 56 du traité de Lisbonne, dont notre président aime à revendiquer la paternité, dit, ouvrez les guillemets, les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Interdit donc d'intervenir sur les mouvements de capitaux. C'est dans le texte, c'est du juridique. Mais comment alors Sarkozy peut-il nous convaincre qu'il suffirait de moraliser, supprimer les excès et refonder le système financier avec de la transparence? On a bien là un discours de camelot dont les intentions sont inapplicables en vertu du traité de Lisbonne. Oui, Sarkozy n'est qu'un pyromane déguisé en pompier. C'était Guy de la région Lyonnaise. À bientôt.
Oh, grand chef indien sage, Daniel Mermet, loin de nous en ce moment, dans les grandes plaines des États-Unis, sache qu'il y a un valeureux Denis Robert, journaliste et écrivain, qui vient d'être condamné en appel suite à la plainte de la société Clearstream. Il faudrait quand même que ça se sache. Voilà, c'est pourquoi Jean-Pierre se permet de te donner ce message.
Les citoyens auvergnats et les autres, bien sûr, sont invités à un rassemblement de solidarité pour la défense et le développement de l'ensemble des services publics samedi 25 octobre à 14h30, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Venez nombreux, merci.
Bonjour, je remercie tous les membres d'ERAZED, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté qui ont pris avec moi la tête de la manifestation de dimanche et ainsi permettre que les médias parlent enfin de nous. Nous sommes les travailleurs de l'ombre de l'éducation nationale. Nous aidons les enfants à devenir des élèves. Nous accompagnons les familles et les équipes enseignantes. Messieurs Darcos et Wurtz veulent supprimer 3000 postes de RAZED à la prochaine rentrée. C'est 150 000 enfants qui ne seront plus aidés par ces personnels spécialisés. Les deux heures d'aide personnalisées mises en place avec la suppression du samedi matin ne pourront jamais remplacer notre travail. Si à la prochaine rentrée scolaire les RAZED disparaissaient, ce serait la négation de notre formation, de nos choix et surtout la décision de la part du ministre de l'Éducation nationale de ne plus aider toute une population d'élèves, leurs familles et les personnels des écoles. Il faut signer la pétition électronique www.sauvonslesRAZED. C'était Eric, rééducateur maître G dans la Sarthe.
Bonjour, c'est Pierre de Maurepas. C'est au sujet des 600 millions qui se sont évaporés à la Caisse d'Épargne. Alors d'abord, je découvre qu'il y a des traders à la Caisse d'Épargne. Ça, j'ignorais ça. Je pensais qu'il y avait des traders dans des banques comme la Société Générale, mais je savais pas qu'il pouvait aussi y avoir des traders à la Caisse d'Épargne. Alors ensuite, on nous dit, mais les 600 millions, c'est pas l'argent des épargnants, c'est les fonds propres de la Caisse d'Épargne. Mais je savais pas non plus que la Caisse d'Épargne avait des fonds propres. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces fonds propres qui n'appartiennent pas aux épargnants et qui appartiennent à la Caisse d'Épargne? C'est quand même très très curieux. Et enfin, on entend à la télévision Madame Lagarde qui nous dit « Les épargnants n'ont pas de soucis à se faire, l'argent est conservé bien au chaud à la Caisse des dépôts et consignations » et elle ajoute textuellement « Il est sous bonne garde ». Mais on ne savait pas qu'il y avait des traders à la Caisse d'Épargne, et qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas non plus à la Caisse des dépôts et consignations un trader fou qui est en train de faire sauter la banque, enfin, ou en l'occurrence, de faire sauter la caisse. Tout ça est bien, bien préoccupant. Voilà, bonne journée, au revoir.
Salut, Daniel. Petite réponse, en fait, aux auditeurs qui s'inquiétaient de savoir où était parti l'argent qui a été perdu par les banques. N'imaginez pas que, nécessairement, cet argent-là a été récupéré par quelqu'un, parce que il y a un truc auquel il faut bien... Enfin, qu'il va falloir bien se mettre en tête, c'est que cet argent-là, et ainsi que énormément d'argent qui est sur les marchés financiers, n'existe pas. Il a été créé par un processus assez simple, somme doute, le processus de dette que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà fait une fois. De par ce processus de dette, ont été créés des millions de milliards, des millions de milliards, qui, quelque part, dorment dans des placements financiers, qui un jour vont être tentés d'être réalisés par les petits épargnants américains, quelque part à l'autre bout du monde, et qui voudront bien toucher un petit peu de l'argent de leur retraite, ou même des collectivités locales en France qui vont vouloir demander à récupérer un petit peu de leur argent qu'ils avaient placé quelque part. Et ce jour-là, on se rend compte que cet argent-là n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des millions de dollars qui n'existent pas. Pour ça, je vous conseille un petit site internet tout à fait intéressant qui s'appelle bankster.tv. Alors, Bankster avec un B comme gangster, comme les nouveaux gangsters. Allez, salut, à plus, et bon courage à tous.
Bonjour, Patrick Monnier de Kourou. Je vous appelle pour vous informer que suite à... à la volonté de M. Sarkozy d'établir un schéma minier en Guyane, les orpailleurs vont se retrouver face aux quelques défenseurs de l'environnement pour établir ce schéma minier. Et ce schéma minier va déterminer des zones où qui seront livrées à l'orpaillage. Le problème, c'est que l'État se prépare à ouvrir la forêt guyanaise, 84 000 km de forêt primaire, aux multinationales minières qui sont responsables dans le monde de graves pollutions, de violations des droits de l'homme, de déséquilibres sociaux et culturels immenses, etc. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un œil un peu sur ce qui se passe en Guyane actuellement, parce que la forêt guyanaise, c'est la seule forêt primaire, ancienne, et liée à la riche Europe, et qui contient, il faut pas l'oublier, 90% de la biodiversité par rapport à la biodiversité de toute l'Europe. Donc nous estimons qu'on pourrait se passer de l'orpaillage et par contre mettre un effort immense sur la recherche de la biodiversité qui est la véritable richesse de la Guyane et peut-être l'avenir de la planète aussi. Soyez attentifs à ce qui se passe parce que évidemment les lobbies de l'orpaillage est très très puissant. Et nous ne sommes pas très nombreux à essayer de faire comprendre qu'il y a d'autres solutions pour développer économiquement la Guyane. Merci de votre attention. Et je vous rappelle qu'il y a des livres, Noir Canada d'Alain Deneau, L'or africain de Gilles Labarthe, qui dénoncent les agissements de ces multinationales minières. Il y a aussi L'industrie minière, impact sur la société et l'environnement, édition du Mouvement mondial pour les forêts tropicales, du WRM, un mouvement de défense des forêts. À lire absolument. Merci et à bientôt.
Salut Daniel, il y a une info qui circule sur France Inter dans les journaux depuis hier, c'est que notre ministre de la Défense, Hervé Morin, va lever le secret défense sur les dossiers de l'affaire JPK en Polynésie. Voilà, alors c'est très intéressant de donner l'info, mais ce qui est toujours intéressant dans ce genre d'info, c'est les arrière-cuisines, c'est le pourquoi du comment. C'est pas le secret défense qui est intéressant, c'est pas de savoir pourquoi c'était mis secret défense, mais de savoir pourquoi c'est en ce moment qu'on lève ce secret défense. Alors l'affaire JPK, c'est une affaire qui empoisonne la Polynésie depuis maintenant 11 ans, c'est un journaliste qui a été certainement assassiné parce que ce monsieur enquêtait sur une affaire là-bas en 97 qui ne s'appelait pas encore l'affaire Clearstream, mais qui était les prémices de cette affaire avec les comptes japonais de Chirac. Donc il a fallu éliminer ce journaliste gênant. Et aujourd'hui, on lève ce secret défense. Pourquoi ? Parce que Gaston Floss est en passe de revenir au pouvoir en Polynésie, donc il faut le torpiller depuis la France pour pas que Monsieur Floss, Monsieur Oscar Temaru, ses nouveaux alliés, reviennent au pouvoir. Il faut garder le petit pantin qui plaît au pouvoir actuellement en place. Donc on lève ce secret défense, faisant croire qu'on est en parfaite démocratie, mais pas du tout. C'est une belle manipulation. Donc ça serait bien que cette info circule un peu plus. Allez, salut, au revoir.
C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Feu Cornelius Castoriadis, la montée de l'insignifiance.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire bon, la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement, elle a perdu son sens. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon, manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance
par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance? Puisque c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose, je crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. Et que c'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas? Bon, c'est des gens qui chassent le suffrage par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils ont aucun programme, quoi. Ils ont pas vraiment des programmes. Leur but, c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça, ils sont capables de tout. Clinton, par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer? En prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. Comme disait l'autre, je suis leur chef, donc je les suis, quoi. Bon. Mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire, comme dans toutes les époques, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de, comment dire, de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas, dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps. C'est, sans aucune conspiration d'une puissance quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire la signifiance. Bon, la politique, c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Ça a toujours été un métier bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner. Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon. Or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Oui. Alors, dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi? C'était flatter le roi. C'était dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pas Pompidou, Pompadour. C'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, de Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle mérite pas ça. Bon, et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie. On attaque la classe politique, d'accord. C'est une tradition. Là, vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion. Mais il y a l'opinion, il y a les citoyens. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose, parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes, ou des intérêts particuliers, ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On lui dit voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? question. Mais pourquoi ils seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Et vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Et ça. Alors, comme évidemment les gens ne sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins. Et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, mais autrefois, c'était pas mieux au sens... c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés après, à partir de la Révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui n'est pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification et disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Oui. Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, on n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est tout à fait liée à celle-là, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidéré, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. Bon, tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dire une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons? Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc., bon... Et puis, dans l'effondrement, méritait une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce que un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro! N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Bon. Alors. Donc, comment voulez-vous? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer. Mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous me parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels? Bon, alors, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe. Parce que finalement, le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, parce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il s'est pas effondré? Parce que les travailleurs ont lutté. Ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. On s'étonne que maintenant il y a du chômage, mais depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, le temps de travail n'a pas diminué. Et on hésite, on dit 39 heures, 38 et demi, 37 trois quarts. Et c'est absolument grotesque. Bon, donc il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin je suis sûr, on peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Moi je vois pas comment l'Europe en tout cas pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or les libéraux viennent et disent il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. C'était pas des révolutionnaires, c'était pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été refuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique de couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché à la longue vous garantit le bien-être.
Pourquoi parle pas l'opposition à ce libéralisme?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. Elle est unique, c'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était, l'idéologie libérale, à sa grande époque?
C'est 1850?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on croyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, Guizot ou John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois l'élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous. Mais même quand on s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit, les ouvriers ne peuvent pas voter parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc, il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après, on a dit, bon, non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières, qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, enfin, qui se diffusent comme ça à la société, la science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc.
Pas mal?
C'était pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que le reste s'est réalisé. Mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire c'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est une, comment dire, l'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation. Même chez les représentants du libéralisme, j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de loin pire. C'est ça le grand argument.
Oui, ça se résume à ça.
C'est... Hein?
Oui, c'est ça. Oui.
Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ça. C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. Ils se disent, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à nouveau au goulag, par exemple. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque, et je crois que on en sortira, que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut qu'il y ait, il faut attendre, il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une resurgence, à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens, une participation des gens.
Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois... la politique, c'est un domaine où il faut être généraliste, hein, et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste, c'est un petit peu tout sur mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste, il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout, avec cette contradiction, un bon citoyen?
Ce dilemme posé comme ça est posé depuis Platon. Oui. C'est pour ça que Platon disait, c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce que eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'était précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections, hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon. Ils ont peut-être eu tort, mais ils ont inventé les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote. Citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialistes. Il n'y a pas, et pourquoi c'est pas une affaire de spécialistes? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialistes de la politique, et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide, et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des padèses. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre. Il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur?
Alors, sur quoi on se base?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là?
Voilà. Alors bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? En gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, 60% des députés, à vous qui ne comprennent rien à l'économie, les députés en France, et ceux-là, ils vont décider, ils votent, voilà, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., ça, c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, ils ont, c'est très drôle. Parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi, je l'ai suivi dans d'autres circonstances, vous voyez que quand vous dirigez, bien sûr, vous fiez aux experts. Et vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc, vous trouverez toujours un économiste pour vous dire, oui, il faut faire ça. ou un expert militaire qui vous dit oui, il faut l'armement nucléaire, ou il faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi. Vous voyez? Bon. C'est un jeu complètement stupide. Et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement. Plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon. Les spécialistes des journalistes. Les spécialistes au service des gens. C'est ça la question. Pas de quelques politiciens. Et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.
Éducationnel, vous avez dit, et vous dites, c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel mode d'éducation vous voyez? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez?
Non, moi je pense...
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise, de toute façon.
Comment?
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital, mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça. L'éducation, on leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabet, hein. Il n'y avait aucun alphabet, tous à peu près tous savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction, vous connaissiez pas la loi. On vous dit « vous êtes censé ne pas l'ignorer ». Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68.
Hein. Oui.
Je reviens à Morin. Oui. Vous avez appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça?
Oui, oui.
Une brèche. Si on repense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète.
Oui. Bon.
Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ?»
Oui, vous avez raison à d'un certain point de vue, qui est très important. Vous avez raison, parce que... Mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie, dans le sens strict, j'allais dire, dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est parce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça, ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ.
Mais l'homme est un animal religieux.
L'homme est un animal religieux. Aristote.
C'est pas un compliment, mais.
Non, c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer et que je vénère dans le roman, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse. Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, mais ça va pas. On dit l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Il désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'International, qui est quand même le chant de la commune, hein, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord? excite la religion, ni César excite Napoléon III, ni Tribun excite Lénine. D'accord?
Ah, j'avais jamais pensé à ça.
Eh oui, mais les gens y pensaient. Or, les gens avaient ce besoin de croyance. Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68? Je crois que peut-être le résultat, à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société, c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques.
Ah,
ça c'est très important. Alors, il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez, ou le fondamentalisme, mais ça c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous, pas tellement quand même. Bon, mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques, ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que c'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens, il dit « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. »
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah, ouais.
Il dit « Les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent, il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. » Bon. Or, précisément, actuellement, on traverse aussi une phrase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grands discours, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et c'est ça qui n'existe pas, de moi, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire.
Vous êtes psychanalyste aussi,
hein, oui.
Qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne. Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui.
Nous qui désirons sans fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir, et encore. Là, vraiment, je sais pas si on aura le temps, on entre dans ce gros chapitre. Parce que ça, c'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération, dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray. Dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé qui était la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une petite duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter, individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Mmh. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme je dis, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses que qu'on ne peut pas faire, ou qu'il faut même pas essayer de faire, ou qu'il faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Eh ben, je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça, ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation, de la camelote, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et tout, dans cette pièce, chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça, c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Elle est très facile d'être...
Démocratie difficile,
parce que liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, c'est l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours.
Sacré ancêtre, hein.
Sacré ancêtre. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité, pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
La liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité, et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée, et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.
C'était une nouvelle diffusion de l'entretien avec Cornelius Castoriadis du 25 novembre 96 qui s'inscrit dans le souci de là-bas si j'y suis d'apporter sa contribution à ceux qui sont en train de refonder l'économie. À signaler également que cet entretien réalisé par Daniel Mermet à l'occasion de la sortie de La montée de l'insignifiance de Cornelius Castoriadis a été retranscrit aux éditions de l'Aube sous le titre Postscriptum sur l'insignifiance. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Si vous souhaitez réagir à cette émission, 01 56 40 37 37.